journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Le gouvernement accélère la cadence et la campagne de vaccination contre le coronavirus. Face aux critiques, l'exécutif essaie d'étouffer les polémiques sur un démarrage jugé poussif de la vaccination. Maxence Lambrec, dans un instant. À l'étranger, plusieurs pays annoncent des montées en puissance spectaculaires de leur campagne de vaccination, les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël qui indiquent être en capacité de vacciner 2 millions de personnes d'ici la fin du mois. La mort de deux nouveaux soldats français hier au Mali, le sergent Yvonne Huin et le brigadier Loïc Risser ont été tués par l'explosion d'une mine. Le ministère des Armées dénonce un mode d'action terroriste particulièrement lâche et pernicieux. Une marche en hommage à Cédric Chouviat, mort il y a un an lors d'un contrôle de police à Paris. Des centaines de personnes ont demandé justice pour Cédric. Harry Halimi, avocat de la famille de Cédric Chouviat.
Il y a une procédure judiciaire qui doit suivre son cours. Mais oui, il y a également aussi des procédures disciplinaires et administratives qui peuvent faire cesser l'exercice de ces fonctionnaires de police dans l'attente de la décision judiciaire. Ce n'est pas le cas.
Dans ce journal également, un adolescent tué dans une fusillade à Bordeaux. Un cap a été franchi, selon le maire de la ville. Vos rendez-vous du 19h, la page sport avec un point sur le Vendée Globe après le passage du Cap Horn, les premiers tours de roue du rallye Paris-Dakar en Arabie Saoudite et le top 14 de rugby avec la 13e journée qui s'achève ce soir. Et puis, nous regarderons comment nos athlètes se préparent pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Les sportifs français à 7 mois des JO, l'objectif de toute une vie. Notre coup d'œil sur l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine à venir. Et puis en fin d'édition, c'est mon actu, notre rendez-vous du dimanche 19h. Témoignage d'Olivier Hurel qui veut réussir un sans faute lors de l'opération Dry January, janvier sans alcool. La météo pour demain, grisaille et neige, c'est l'hiver. Jean-Pierre Hameau à la fin de cette édition. Et à 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi la mer
Merci
des vagues. Merci, au revoir.
Réponse à 19h30, les petits bateaux.
France Inter.
La stratégie vaccinale toujours au centre des préoccupations après les critiques de lenteur et les reproches d'une France à la traîne par rapport aux pays, notamment européens. Le gouvernement va donc accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus et aussi sa communication. Et face aux critiques sur un démarrage jugé poussif, le gouvernement multiplie les annonces et les décisions pour montrer que la stratégie vaccinale est la bonne. Après les polémiques sur le manque de masques au début de l'épidémie, puis les questions autour d'une campagne de tests de dépistage chaotique, la réussite de la campagne de vaccination est un enjeu crucial pour le gouvernement. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Crucial pour le gouvernement et pour le président Emmanuel Macron.
Oui, il sent bien que tout ça peut très vite mal tourner et qu'il sera in fine le seul responsable de cette campagne de vaccination. D'où la mise sous tension, dixit l'Elysée, le coup de pression sur les administrations, les agences régionales de santé qui avaient subi la même foudre présidentielle face au manque de tests. D'ici mercredi, 94 établissements de santé devraient disposer de près de 500 000 doses pour les personnes âgées vulnérables et les soignants de plus de 50 ans. Et les caméras et micros seront là pour assister aux livraisons, car la réplique se veut aussi médiatique. Même le ministre des Transports doit monter au front. Ce dimanche midi sur BFM, Jean-Baptiste Djebbari s'emballe un peu.
L'objectif, c'est de pouvoir vacciner 26 millions de Français d'ici à l'été. 26 millions de Français à l'été, ça nécessite évidemment d'accélérer.
Accélérer, oui, mais pas à ce point. Ce chiffre sort de nulle part, reconnaît le porte-parole du gouvernement un peu plus tard sur LCI, Gabriel Attal.
L'objectif qui a été annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, c'est bien 15 millions de personnes vulnérables. Pour que les choses soient claires, je pense que c'est important de se fonder sur ce qui a été annoncé par le Premier ministre.
Et oui, 15 millions et non 26 à l'issue des deux premières phases, donc avant l'été. La semaine dernière, seul le ministre de la Santé et le porte-parole qu'on vient d'entendre avait le droit d'aller sur les plateaux télé et radio. Accélérer, intensifier la communication, c'est aussi prendre le risque d'une ou deux sorties de route.
Maxence Lambrec, merci. Accélérer. Et demain, par exemple, le tirage au sort des 35 membres du futur collectif des citoyens va débuter. Ce conseil sera chargé de se prononcer sur la gestion de l'épidémie et de la campagne de vaccination. De son côté, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a passé la journée avec certains directeurs des agences régionales de santé. Anne Sénéquier est médecin. Elle est aussi co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales. Et elle estime qu'il faut maintenant ne plus attendre pour vacciner. Il faut accélérer.
C'est important de remettre un petit peu plus de rapidité et de puissance sur cette vaccination. C'est vrai qu'au niveau individuel, on n'est pas à un jour près, mais il y a cette nécessité à arriver le plus grand nombre de personnes vaccinées pour enrayer ces chaînes de transmission et arriver à mettre fin à cette pandémie. Donc c'est vrai que là, on porte un petit peu le poids de ce qui s'est passé en 2009 avec la campagne de vaccination H1N1 où on avait fait le pari de partir sur des vaccinodromes et juste de faire venir les gens au vaccin. On avait eu un total de 9% de la population vaccinée, ce qui était très très peu. Donc l'idée avait été au départ de faire venir le vaccin à la population, d'abord dans les EHPAD, ensuite à la population générale via les médecins généralistes. Mais c'est clairement une stratégie que l'on pourrait mettre en place, par exemple pour la vaccination contre la rougeole de manière générale, mais pas dans une urgence sanitaire telle qui est la nôtre aujourd'hui. Donc il y a vraiment nécessité de changer de braquet et d'avancer un peu plus en puissance.
Anne Sénéquier, co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. Alors, comparaison n'est pas raison, surtout dans ce contexte de pandémie mondiale, mais plusieurs pays ont annoncé aujourd'hui des montées en puissance spectaculaires de leur campagne de vaccination. Les États-Unis assurent qu'ils vont pouvoir bientôt vacciner 1 million de personnes par jour. La Grande-Bretagne espère être en mesure de vacciner des dizaines de millions de personnes dans les 3 mois. Israël annonce que 2 millions de personnes auront reçu la double injection du vaccin contre le coronavirus d'ici fin janvier. Jérusalem, Michel Paul.
C'est une véritable course contre la montre qui a été lancée en Israël. D'un côté, un nombre de nouvelles contaminations à la hausse et une troisième vague du Covid-19. Et de l'autre, une campagne de vaccination effrénée. L'objectif, selon les autorités sanitaires, est la vaccination d'ici la fin du mois de janvier de 2 millions de personnes, les plus de 60 ans et les équipes médicales qui devraient avoir reçu d'ici là la double injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Mais en attendant, Israël va devoir ralentir le rythme de la campagne de vaccination pour pouvoir réapprovisionner les stocks de vaccins. Selon le programme qui a été présenté initialement, le pays pourrait reprendre une vie relativement normale vers la fin du mois de mars. Mais pour l'heure, le troisième confinement en vigueur en Israël n'est que très vaguement suivi. Le gouvernement essaie à grande peine, en cette période électorale, de faire adopter des mesures restrictives plus sévères, notamment la fermeture de tout le système scolaire. Jérusalem, Michel Paul, RFI. Pour France Inter.
Et dans cette situation angoissante de pandémie mondiale, une nouvelle plutôt réconfortante pour les jeunes gens qui arrivent sur le marché de l'emploi. Une trentaine de chefs d'entreprise, des patrons de multinationales appellent à une mobilisation collective pour la jeunesse française avec un objectif: proposer 100 000 offres d'emploi d'ici la fin du mois de janvier. Cette mobilisation doit également concerner les PME, mais les petites et moyennes entreprises ont besoin d'un coup de pouce pour embaucher des jeunes. Jean-Eudes Duminil-Buisson, secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Vous savez, l'emploi des jeunes, c'est l'affaire de tous. Hein. La situation aujourd'hui, on la connaît, on a un jeune actif sur 5 qui est sans emploi. Et il y a entre 700 et 900 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Donc la responsabilité collective des entreprises et des chefs d'entreprise, c'est de s'impliquer, de se mobiliser pour trouver un débouché pour ces jeunes et pour pas que ce soit les oubliés de la période actuelle sur le plan économique. Donc oui, c'est la responsabilité de tout le monde, grandes et petites entreprises confondues, bien entendu. Et nous allons proposer, nous, ces PME, une action dans ce sens-là avec le site Le Bon Coin. Les petites entreprises et les chefs de petites entreprises aussi peuvent se mobiliser pour essayer d'avoir des actions de mentorat, c'est-à-dire d'accompagner ces jeunes et puis d'ouvrir leur carnet d'adresses aussi. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément le réseau qui vous permet de frapper à la bonne porte. Donc ça aussi, on peut l'organiser et on peut faire en sorte d'accompagner et d'aider ces jeunes. C'est ce qu'on va faire.
Jean-Eudes Duminil-Buisson, secrétaire général de la CPME. Les soldats de Barkhane à nouveau frappés au Mali. Deux militaires français, le sergent Yvonne Huin, mère de famille de 33 ans, et le brigadier Louis Crisser, 24 ans, sont morts hier dans l'explosion de leur véhicule blindé sur une mine artisanale. Le ministère des Armées dénonce un mode d'action terroriste particulièrement pernicieux et lâche. Pour les soldats français, l'ennemi numéro 1 au Sahel, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, affilié à Al-Qaïda, Nathalie Hernandez.
Depuis un an, Barkhane a concentré ses efforts sur la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour combattre l'État islamique au Grand Sahara. Le groupe terroriste était alors considéré comme le principal adversaire. Si le IGS a été affaibli, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda, est aujourd'hui l'ennemi public numéro un, comme l'a déclaré le commandant de Barkhane il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Le général Marc Honruit le décrit comme le plus dangereux car il est rusé, agile, capable à la fois d'une vision et de coups tactiques. Le GSIM, poursuit le général français, prospère sur la misère ou l'absence d'alternatives sociales ou économiques. Il cherche à établir son propre mode de gouvernement, ajoute Marc Honruit. Le GSIM a d'ailleurs revendiqué hier l'attaque meurtrière du 28 décembre, une revendication qui est intervenue quelques heures seulement après la mort des deux sergents et brigadiers français près de Ménaka.
Nathalie Hernandez, et puis au Niger, un carnage s'est produit dans l'est du pays, à la frontière du Mali et du Burkina Faso. 100 morts dans l'attaque de deux villages. Selon les autorités, les deux villages ont été attaqués par des terroristes venus avec une centaine de motos. Il pourrait s'agir du pire massacre de civils au Niger. Une marche aujourd'hui en hommage à Cédric Chouvia. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le calme à Paris, un an après la mort de ce livreur de 42 ans lors d'un contrôle de police. La famille de Cédric Chouvia a pris la parole pour demander justice pour Cédric. Reportage Delphine Avenou.
De la place de l'Uruguay vers le quai Branly pour retracer les derniers kilomètres de Cédric Chouvia. Le parcours est ponctué des derniers mots du quadragénaire scandés par la famille. Elle réclame toujours, un an après, que le ministère de l'Intérieur tire les leçons de ce drame. Maître Arié Halimi, l'un de leurs avocats.
Rappelons-nous que M. Castaner, donc ministre de l'Intérieur, avait promis à la famille la suspension éventuelle des fonctionnaires de police dans l'attente de nouveaux éléments. Les éléments sont arrivés, il n'y a pas eu de suspension. Ce qui avait été également promis, c'est l'arrêt de la clé d'étranglement. La clé d'étranglement est toujours enseignée dans les écoles de police.
Dans le cortège, d'autres familles qui ont perdu un proche dans des dossiers où les forces de l'ordre sont mises en cause. La mère de Cédric Chouvia, Fatima, tient à les soutenir.
Mon fils, ce jour-là, il y a un an, il a filmé toute sa mort. Il nous a laissé toutes les preuves pour le défendre. On va dire qu'on est un peu privilégiés, mais ça nous fait mal au cœur pour toutes les familles de victimes qui n'ont pas eu accès aux vidéos, qui ne peuvent rien faire. Cette loi de sécurité globale, j'espère qu'elle ne va pas passer parce que nous, si on a toutes ces preuves, c'est grâce aux vidéos.
Une attaque contre le controversé article 24 de la loi sécurité globale qui veut encadrer fermement la diffusion d'images de policiers. La coordination de lutte contre ce texte est d'ailleurs présente, tout comme quelques élus, gilets jaunes, militants antifascistes. Une manifestation restée très calme, comme l'avaient demandé les proches de Cédric Chouvia. Sa fille conclut, ce n'est pas nous contre la police ou contre l'État, c'est nous contre les personnes qui justifient ces crimes.
Delphine est venue. Un cap a été franchi à Bordeaux. Il y a une escalade inquiétante de la violence. Selon le maire de la ville, Pierre Urmic, une fusillade a éclaté hier soir dans le quartier des Aubiers, au nord de la ville. Un garçon de 16 ans a été tué. 4 autres adolescents âgés de 13 à 16 ans ont été blessés, dont 2 grièvement. Cette fusillade à coups d'armes automatiques pourrait être liée à des rivalités entre cités, Mélanie Juvet.
Une ou plusieurs personnes à bord d'une voiture qui s'arrête à hauteur de ces jeunes à l'entrée de la cité place Ginette Neveu. Des coups de feu sont tirés en rafale avec une arme automatique, c'est peu avant 23h. D'après le parquet de Bordeaux, les secours arrivent sur place, mais le jeune de 16 ans succombe à ses blessures. 4 autres personnes sont touchées, 3 jeunes entre 13 et 16 ans et un homme âgé d'une trentaine d'années. Leur pronostic vital ne serait pas engagé d'après le parquet. Sur place, une quarantaine de douilles de gros calibre ont été retrouvées, indique une source syndicale. Des vidéos sont en train d'être épluchées par les enquêteurs pour tenter de comprendre les causes de la fusillade. Est-ce un règlement de compte entre quartiers, des représailles après la nuit du Nouvel An où un bureau de poste avait brûlé ? En tout cas, l'audition des témoins et des victimes dans les prochaines heures devrait permettre d'en savoir plus, alors que depuis quelques semaines, les violences urbaines deviennent récurrentes dans le quartier des Aubiers.
Mélanie Juvet, France Bleu, Gironde. En bref, l'un des événements de l'année en BD avec une date à retenir pour les amoureux d'Astérix, le 21 octobre prochain, date de sortie du 39e album des aventures d'Astérix le Gaulois. Astérix et Obélix partent pour une destination inédite. Destination Sport sur France Inter à 19h14. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Frédéric.
Et Yannick Bestaven, toujours en tête du Vendée Globe. Il a passé hier en leader le Cap Horn à la pointe sud de l'Amérique du Sud.
Oui, il a franchi ce cap mythique dans une mer déchaînée. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il aujourd'hui, Yannick Bestaven, cet après-midi, à bord de son bateau et au micro de Bernard Thomasson?
Fatigué, usé, un peu comme mon bateau. Il faut que je fasse beaucoup d'entretien là sur le bateau, que je me recharge aussi mes batteries. Et puis, on part un peu sur une nouvelle course, on va dire, parce que cette remontée-là va être compliquée aussi, avec des zones difficiles à passer, avec peu de vent à certains moments. C'est très bien que la route est encore longue et que rien n'est acquis. C'est la remontée, le passage de l'équateur, bien sûr, et puis après, revenir naviguer dans l'Atlantique Nord qu'on connaît bien, et tout le monde sera à peu près dans le même état. Je pense que tout le monde est un peu usé, tous les bateaux sont aussi un peu fatigués, donc il faudra gérer avec le potentiel du bateau et nos ressources pour faire la route la plus intelligente et arriver le plus possible au Stade de Lonne.
Yannick Bestaven, qui ne possède qu'une très courte avance sur son poursuivant Charlie Dalin, qui a passé le Cap Horn très tôt ce matin, 68 000 seulement séparent ces deux navigateurs, ça fait à peu près 120 km. A priori, futur vainqueur de ce Vendée Globe devrait franchir la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne à la fin du mois.
Et puis Vincent, les premiers tours de roue du rallye Paris-Dakar, une épreuve qui se déroule pour la deuxième année consécutive en Arabie Saoudite.
Oui, avec des mesures sanitaires draconiennes. Jean-Pierre Blimeau, vous êtes notre envoyé spécial sur ce rallye et on est entré aujourd'hui dans le vif du sujet à l'occasion de cette première étape.
À 45 ans, Stéphane Darc est un habitué des épreuves tout-terrain qu'il pratique depuis 10 ans sur une moto. Cette année, ses amis l'ont vivement incité à s'inscrire sur le Dakar. Problème, la pandémie est arrivée, le projet a failli tourner court. Aujourd'hui, le pilote mesure la chance qu'il a d'avoir réussi à venir.
Carrément, je pense que je savourerais ça, le Dakar fini, mais c'est une chance inouïe de pouvoir être ici aujourd'hui.
Mais avant, le moteur du Pas-de-Calais est passé par toutes les émotions, surtout quand le coronavirus en est mêlé au printemps. Il a eu peur que l'épreuve soit annulée.
Dès le premier confinement, j'ai eu peur que ça soit annulé. Et puis, je me suis dit, bon, il ne faut pas baisser les bras. Tant que venant de l'organisation, c'est pas annulé, je lâche pas, quoi, j'y vais. Quoi.
Pour pouvoir rouler dans ce rallye raid de légende, Stéphane Darc a dû trouver 70 000 euros. Il a créé une association contre la mucoviscidose, trouver des sponsors et a dû mettre environ la moitié de la somme de sa poche.
On peut monter des associations, on peut se battre pour une cause. Il y a des financements qui viennent assez rapidement. Et à partir du moment où on a commencé à rentrer dans l'engrenage, derrière, forcément, j'ai pris sur mes économies, mais il faut être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout.
Et du coup, la peur de l'abandon le taraude sur le bivouac.
Oui, la peur de l'abandon, elle est là. Je préfère même pas l'imaginer. C'est pas possible.
Car comme pour tous les novices, l'objectif de Stéphane Darc est très simple. Terminer le 15 janvier à Jeddah. Bichat, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Voilà ce portrait donc de ce concurrent du Dakar, Jean-Pierre Blimeau avec Benjamin Thuot. C'est Carlos Sainz qui a réussi le meilleur temps dans la catégorie auto devant Stéphane Peter Hansel. Et chez les motos, c'est l'Australien Toby Price qui s'est imposé. Ce Dakar s'achèvera le 15 janvier à Jeddah.
Le rugby et les rugbymen du top 14 sur le pont ce week-end, la 13e journée de top 14, ça s'achève ce soir avec une affiche compliquée à dire, alléchante.
Oui, Clermont qui reçoit le Racing 92, ce choc qui aurait en temps normal attiré les foules ce jour-là. On en a pris l'habitude à huis clos. Bonsoir Fanny Chevestrier.
Bonsoir Vincent.
Vous êtes à Clermont à l'entrée du stade Michelin, on imagine une ambiance assez triste, d'autant que l'on ne sait pas quand les équipes vont retrouver leur public.
Oui, il y avait un petit espoir avant les vacances de Noël. Là, rien d'officiel encore. Un arbitrage est prévu jeudi pour la réouverture éventuelle des stades. Mais selon nos informations, il ne fait aucun doute que les matchs vont continuer à se dérouler sans spectateurs après cette date. On ne sait pas en revanche quand est prévue la prochaine échéance pour en discuter. Et c'est vrai, Vincent, que cela a beau faire plus de 2 mois maintenant que le huis clos total est de mise. Impossible, on ne s'y habitue pas. Ici à Clermont, ville de rugby, vous le connaissez, vous le savez, ce sont normalement plus de 7000 abonnés qui viennent chaque week-end au stade. L'an dernier, à la même date, il faut se souvenir que l'ASM avait accueilli 19 000 spectateurs. Et là, ce soir, eh bien, il n'y a aucun bonnet jaunard, bleu et jaune à l'horizon, pas d'odeur de frites. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est aussi ça, les ambiances de rugby. Une atmosphère dont on parlait hier soir justement avec Julien Dumora, l'arrière de Castres, il nous racontait que cela devenait très pesant, ce silence, cette absence. Écoutez.
Voilà, c'est un petit peu ce qui fait l'ADN de notre club. Les 10 000 personnes et toute la ville poussent toujours derrière nous le samedi. Tout le monde vit pour le club. Ils ont vraiment envie de nous aider dans ces moments compliqués. Ils le font un petit peu comme ils peuvent, en envoyant des messages et tout ça. Mais c'est vrai que le week-end, ça nous manque.
Le huis clos hein, qui pour beaucoup explique hein, pourquoi les équipes ont cette saison tant de mal à gagner à domicile, près d'une défaite sur deux, du jamais vu, sans parler Vincent des pertes économiques, déjà près de 4,5 millions d'euros à cause du huis clos pour Clermont, selon son président.
92, merci Fanny Lechevestri en direct du stade Michelin. Philippe Saint-André, le nouvel entraîneur du Montpellier Rugby, l'ancien sélectionneur du 15 de France, remplace Xavier Garbajosa qui a été limogé aujourd'hui. Les Montpelliérains sont avant-derniers du top 14. Philippe Saint-André était depuis 10 mois le directeur sportif du club. Et puis le nouvel entraîneur du PSG, l'Argentin Mauricio Pochettino, a dirigé cet après-midi son premier entraînement au Camp des Loges. Il fera ses débuts sur le banc parisien mercredi soir à Saint-Etienne.
Et on va regarder maintenant ce qui nous attend en 2021, une année sportive très riche avec des rendez-vous majeurs comme les Jeux Olympiques l'été prochain à Tokyo. À 7 mois des JO, les athlètes sont déjà en pleine préparation sur les terrains et dans les salles d'entraînement. Les Jeux, reportés d'un an à cause du coronavirus, devraient se tenir du 23 juillet au 8 août prochain. Mais la route qui conduit à la cérémonie d'ouverture reste incertaine et bien chaotique. L'épidémie continue de chambouler le calendrier des compétitions et donc les chances de qualification. À 7 mois de l'objectif de toute une vie, comment garder le rythme et le moral? Une athlète, un entraîneur et une psychologue se sont confiés à Stéphanie Mora. C'est le long format de ce soir.
On a beau entraîner des athlètes depuis 20 ans, on peut se sentir un peu perdu devant les annulations de compétitions liées au coronavirus.
On sème comme le petit pousset des petits cailloux tout le long du chemin et on essaye de remplir, cocher nos cases étape par étape.
Guy Ontanon a au moins 4 Olympiades à son actif. Il accompagne cette année 7 athlètes jusqu'à Tokyo et il a dû se remettre en question.
On a été confiné physiquement, mais en tant qu'entraîneur, on a pu essayer aussi de se déconfiner psychologiquement. En allant chercher d'autres choses, d'autres méthodes, d'abord dans différentes lectures au niveau des neurosciences, comment maintenir justement les états de motivation et faire verbaliser au maximum les athlètes. On a mis beaucoup plus d'échanges.
Et puis le coach doit résoudre des casse-têtes du type comment préparer un 200 mètres quand aucune épreuve du genre n'est organisée avant les Jeux.
Avec certains collègues, on a commencé à discuter de mini-compétitions en interne. Pour essayer de garder un peu cet état d'esprit de compétiteur. Il n'y a rien de tel que la compétition pour rentrer dans le vif du sujet, dans le spécifique. Et ne pas avoir de repères, c'est la pire des choses que les athlètes puissent avoir à contrôler, à gérer.
Cette angoisse de la page blanche, du manque de répétition générale, Madeleine Malonga, championne d'Europe et du monde de judo chez les moins de 78 kilos, ne l'a pas, ou plutôt ne l'a plus.
C'est vrai que c'est un peu bizarre. Je sais qu'il y aura les Jeux Olympiques, enfin c'est maintenu. Mais après, je suis très consciente aussi qu'il y a la Covid-19 et aussi par rapport à notre calendrier. Pour le moment, vu que c'était le Master, la seule compétition qui était connue et sûre, eh ben, ma tête du moins est rivée sur le Master.
Madeleine Malonga s'envole d'ailleurs cette semaine pour cette compétition à Doha et ne compte pas changer son rythme de 2 entraînements quotidiens jusqu'à Tokyo. Et cette distance se calme. La psychologue Meriem Salmi les distille aussi auprès des athlètes qu'elle suit.
On se base sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on construit. Maintenant, on a appris à faire avec ce qu'on ne sait pas. Sur les qualifications, par exemple, olympiques, maintenant, on n'a pas les éléments.
Alors pour Meriem Salmi, la pandémie, eh bien, c'est un peu la victoire de la méditation de pleine conscience, du travail mental au plus haut niveau.
Le mental prend la place prioritaire. Hein. Déjà, je le pensais avant. Mais alors là, je le pense encore plus. Là, j'avais un athlète, il sait que qualification olympique, il va avoir 2 possibilités de se qualifier, c'est tout. Sur une saison olympique, en général, on a quand même plus d'occasions pour se qualifier. Donc la pression est beaucoup plus importante. Ce sont des jeux particuliers, j'ai envie de dire même, ce sont des jeux qui vont être plus méritants.
Rendez-vous fin juillet pour savoir si la Covid aura permis aux athlètes de devenir plus forts autrement.
2021, l'année des JO de Tokyo, si la situation sanitaire le permet.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre, la semaine prochaine, on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de cette première semaine de l'année 2021. Une semaine, on l'a compris, occupée par la vaccination contre le coronavirus. Demain lundi, c'est le début de la campagne officielle de vaccination du personnel soignant âgé de 50 ans et plus. C'est aussi le premier jour de retour au travail, et notamment dans les 15 départements sous couvre-feu à 18h. Bref, c'est la fin des vacances et une drôle de rentrée de la maternelle à l'université où les étudiants pourraient retrouver le chemin des amphis. Demain lundi également, sur l'agenda judiciaire, un enlèvement rocambolesque aux assises de Nice, un restaurateur italien retraité et rancunier, un ancien militaire sans ressources, un ex-paparazzi et quelques voyous comparaissent à Nice pour l'enlèvement en 2016 d'une richissime hôtelière de la Côte d'Azur. Après 48 heures de calvaire, Jacqueline Vérac, 80 ans aujourd'hui, avait réussi à se libérer. À l'étranger, le temps fort de l'actu aura lieu aux États-Unis. L'État de Géorgie vote pour le second tour des sénatoriales qui décidera de la majorité de Joe Biden et de la capacité du futur président américain à gouverner pleinement. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir.
Ces élections en Géorgie sont donc capitales.
Oui, les deux sièges de sénateurs de cet État du Sud n'ont pas été pourvus au premier tour il y a deux mois, le même jour que la présidentielle. Aucun des candidats n'a obtenu 50% des suffrages pour être élu et il y a donc un second tour mardi et c'est une élection scrutée par tout le pays parce que du résultat dépendra le rapport de force au Sénat. Aujourd'hui, il y a 48 sénateurs démocrates et 50 républicains. Si les deux candidats démocrates l'emportent, on sera donc à 50-50, ce qui veut dire que le Sénat penchera à côté démocrate puisqu'il faudra ajouter en cas d'égalité la voix de la future vice-présidente Kamala Harris, qui sera aussi la présidente du Sénat. À l'inverse, il suffit d'un siège aux Républicains pour conserver la majorité et sans doute gêner considérablement la politique de Joe Biden. Le président élu sera demain en Géorgie avec les deux candidats démocrates, John Ossoff et Raphaël Warnock, et Donald Trump sera lui aussi sur place avec les sortants républicains, en tout cas avec Kelly Loeffler. On ne sait pas encore si David Perdue sera là à cause du virus. Il est cas contact et il est en quarantaine chez lui.
À noter également la semaine prochaine, vendredi, 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Emmanuel Macron se rend à Jarnac et c'est également le lancement du Beauvau de la sécurité et l'actualité, non seulement de la semaine prochaine, mais tout au long du mois de janvier. C'est l'opération ou le défi pour certains du Dry January, le mois de janvier sans alcool, pas une goutte. L'édition 2021 débute dans un contexte tout particulier. En mai dernier, 11% des Français estimaient que leur consommation d'alcool avait augmenté pendant le confinement. Le mois de janvier sans alcool, c'est l'actu d'Olivier Hurel, un habitant de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. L'an dernier, il avoue un dérapage, quelques verres bu lors d'un dîner. Cette année, Olivier Hurel l'assure à Sébastien Sabiron. Il fera un sans-faute témoignage.
J'ai 30 ans, je travaille dans la communication et aujourd'hui je vis en colocation avec 12 personnes, ce qui amène de nombreux temps conviviaux. Suivant les rythmes de vie de chacun, on peut être amené à avoir une bière, à avoir une proposition de bière par-ci, un verre de vin par-là. Ça devient vite très normal de boire de l'alcool, à un point où on peut perdre ce recul auprès de sa consommation. Cette première édition du Dry January qui a eu lieu l'année dernière, c'était la parfaite opportunité de se lancer ce défi. Et ça, c'était vraiment top.
Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, physiquement et mentalement ?
Alors ça, c'était assez flagrant. Moi, je ne m'attendais pas à de tels résultats sur 30 jours. Je dormais mieux, la qualité de mon sommeil s'est améliorée. Ma peau était plus douce et ça, c'est pas négligeable. Et puis surtout, économiquement, c'est très avantageux. Surtout après les fêtes, ça fait plutôt plaisir. Ouais.
Vous êtes un trentenaire urbain, vous vivez en coloc. Est-ce que c'est difficile de respecter ce Dry January ?
Alors, ce qui m'a frappé, c'est que constamment, quand on nous propose de l'alcool et que l'on refuse, il faut se justifier. Il faut répondre que non, on n'a pas de problème avec l'alcool. Le moral, ça va bien. Je suis quelqu'un de fun qui peut s'amuser sans boire une bière ou du vin. Et ça peut être usant pour des personnes qui ont des consommations plus problématiques. Ça doit être très, très compliqué.
Qu'est-ce que ça a changé, ce Dry January, dans vos habitudes de consommation ?
Maintenant, je bois plus de bière parce que finalement, je me rends compte que j'aime pas ça. Je bois de temps en temps du vin. Plus de cuite, plus de gueule de bois le dimanche matin, avoir une journée où on peut faire plein d'autres choses plutôt que de comater dans son lit. Donc clairement, ouais, c'est le Dry January de l'an passé m'a permis d'avoir cette nouvelle perspective.
Et cette année, l'objectif, c'est quoi ?
Alors l'objectif cette année, c'est d'être encore plus nombreux dans mon entourage à le faire, de le faire de manière encore plus créative et surtout d'ancrer cette pause avec des nouvelles habitudes, donc faire plus de sport, sortir si on peut, de manière plus sobre et plus joyeuse.
Voilà les bonnes résolutions à tenir pour ce mois de janvier d'Olivier Hurel avec Sébastien Sabiron. Au générique de cette édition, Julien Dumont et Nicolas Delmas en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté d'Anna Péan et d'Hélène Barbé. Merci à eux et merci à vous de nous avoir écoutés. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Pierre Hameau.
La perturbation neigeuse va progresser cette nuit de la Champagne-Ardenne vers le nord et la Picardie, mais aussi vers l'Île-de-France et la région centre. On attend d'ici demain matin une fine couche de neige d'environ 1 à 2 cm et plutôt en milieu rural. Les gelées seront fréquentes et parfois fortes en fin de nuit. Demain, poursuite d'un temps hivernal avec encore de faibles chutes de neige sur la moitié nord du pays, de la neige aussi en pleine gardoise, des averses le long des côtes de la Manche, mais aussi entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Le temps restera instable entre la Corse et le continent. Partout ailleurs, le ciel sera souvent nuageux. Vous profiterez quand même d'assez belles éclaircies l'après-midi des Pyrénées-Orientales jusqu'au Limousin. Les maximales évolueront entre 1 et 10 degrés, avec 1 à Mulhouse, 2 à Nancy, Dijon, Lyon et Clermont-Ferrand. Comptez 3 degrés à Paris comme à Lille et Limoges, 5 à Bordeaux, 6 à Brest et Toulouse, 8 à Toulon. Prévoyez 10 degrés à Ajaccio.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.